るのかな。Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana, un épisode particulier aujourd'hui avec des invités de haut rang pour un événement singulier, une grosse victoire juridique pour la filière du cannabis légal en France. Nous allons parler évidemment de la décision finale du Conseil d'État qui vient à nouveau d'autoriser clairement la commercialisation des fleurs de cannabis qui ont un taux en dessous de 0,3% de THC. C'est une victoire juridique mandatée par les associations, avec notamment le syndicat du chanvre, qui est représenté par Aurélien Delacroix, que je vous invite à écouter sur Parlons Cana, c'est l'épisode 1, et l'UPCBD, donc l'Union des professionnels du CBD, représentée par Charles Morel, que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, et l'AFPC, donc Association française des producteurs de cannabinoïdes. Je vous fais un petit rappel très rapide de l'historique, mais Charles va rentrer bien sûr en détail là-dedans juste après. Un réveil de jour de l'an douloureux, donc il y a quasiment un an, jour pour jour, le Conseil d'État interdit purement la commercialisation des fleurs et des feuilles brutes de chanvre. Une décision excessive et complètement disproportionnée qui a menacé violemment une filière en plein essor, donc la filière du CBD, qui, je le répète, est non psychotrope et non stupéfiant, avec plus de 2000 boutiques, 20 000 emplois et des agriculteurs mis à mal. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode 21 sur Parlons Cana, l'épisode poignant du combat d'un agriculteur de cannabis en France, mais aussi et surtout les plus touchés ont été les consommateurs et les consommatrices. Pour ceux qui ne connaissent pas le CBD a des effets bien-être incontestables. C'est bon pour le sommeil, c'est bon pour se relaxer, ça permet aussi à certaines personnes de lutter contre certaines douleurs, et puis ça permet à beaucoup de décrocher ou de baisser la consommation du cannabis THC qui est lui psychotrope. Alors, pour parler de ce combat passionnant, des dessous, des enjeux, j'ai aujourd'hui la chance d'avoir Maître Charles Morel qui est parmi nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Charles, je vous invite à écouter l'épisode 16 sur Parlons Cana. Le titre, c'est « Le CBD n'est pas stupéfiant ». Donc, Charles est avocat au barreau de Paris depuis 25 ans, mais il est surtout président de l'UPCBD depuis sa création en juin 2021. Il a été en première ligne avec le référé Liberté, qui a permis de suspendre l'interdiction en 24 jours. Il va nous en parler dans quelques secondes. Mais j'ai aussi Maître Xavier Pizzaro, la star de Parlons Cana. Alors Xavier, tu es le plus d'écoute sur le podcast devant des députés et des sénateurs. Bravo, je sais que tu adores quand je te mets en avant comme ça. Non, je ne sais pas du tout, je sais que tu n'aimes pas du tout. Mais voilà, il fallait que je le dise évidemment. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Xavier, je vous invite à écouter l'épisode 48. Il faut continuer à défendre de Xavier Pizzaro. Alors Xavier est avocat au barreau de Marseille, un avocat de renom dans le milieu du CBD puisqu'il est expert Normal France, est un fervent défenseur de la filière au sein de l'UPCBD. Xavier, c'est celui qui a accompagné aussi Sébastien Béguéry dans l'affaire Canavap et qui a conduit cet interminable procès historique, ce procès qui a ouvert la route du CBD en France et qui a terminé par une relaxe et une amende tout simplement de 250 euros, avec notamment une plaidoirie devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est l'épisode 6 sur Parlons Cana pour ceux qui veulent écouter ça. Et nous avons Maître Yann Biziou. Bonjour Yann, écoute, tu n'es pas encore passé sur Parlons Cana, mais tu le seras juste après. Tu es maître de conférence, membre du comité d'experts de Normal France, du conseil scientifique du groupe de recherche et d'études cliniques sur les cannabinoïdes. Tu es un ancien membre du conseil scientifique de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Alors, je vais ouvrir la discussion avec toi, Charles, si tu le veux bien. Si tu peux revenir sur l'historique complet, avec ses rebondissements notamment, pour mettre un petit peu du contexte sur cette journée, on est au lendemain de cette journée historique. Après, bien sûr, on laissera Xavier parler et Yann parler sur d'autres questions. Mais si tu peux nous mettre un peu de contexte, Charles, s'il te plaît, merci.
Alors oui, merci Mathias. Oui, il y a un historique, il commence à y avoir presque une histoire du CBD. Elle est récente, mais elle est dense, intense. Elle a commencé, alors, sans parler même de la réglementation sur le chanvre, hein, jusque récemment, donc c'était un arrêté du 22 août 1990 et qui prévoyait, partant du principe d'interdiction, hein, qui pèse sur le cannabis d'une manière générale, une dérogation, mais simplement au bénéfice des fibres et des graines. Et puis en 2018, sont apparues des boutiques de CBD, des pionniers audacieux, voire téméraires, puisqu'ils ont été confrontés tout de suite à des perquisitions, des centres, des procédures, hein, pour beaucoup d'entre elles, des fermetures. On a vu à l'époque d'ailleurs la relative, même complète, méconnaissance qu'avait le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur le sujet. Il y avait une interview d'elle qui était pour le moins compliquée. Et puis est venu un peu plus tard, avec l'excellent Xavier Pizarro à la barre de cette affaire, l'arrêt Canavap devant la Cour de justice de l'Union européenne, et qui est venu dire quelque chose de très important, et ce, après avoir examiné les conventions internationales de 61 et 71 sur les stupéfiants, que le CBD, le cannabidiol, n'était pas un stupéfiant. Et il l'a fait après un travail d'analyse qu'on appelle téléologique, c'est-à-dire au regard des finalités de ces conventions, qui certes classaient, pour faire des choses sommairement, le cannabis comme étant un stupéfiant, mais avec une finalité qui est celle de la santé physique et morale de l'humanité, et considérant qu'il n'y avait pas de risque pour la santé et pas de caractère psychotrope, la Cour de justice de l'Union européenne a donc dit qu'il s'agissait d'une marchandise qui était protégée par les articles 34, 36 et 38 du TFUE, c'est-à-dire le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et donc le principe de libre circulation des marchandises, et que dès lors qu'un produit CBD était fabriqué légalement dans un État membre, il pouvait être commercialisé dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Donc là, évidemment, coup de tonnerre, et puis évidemment, appel d'air considérable. C'est là qu'on a vu fleurir de manière exponentielle des boutiques spécialisées à travers la France. La France, le gouvernement, l'État qui est sûr, on va dire, depuis longtemps, et en tout cas quand il a vu apparaître le CBD, qu'il a vu que c'était une molécule issue du cannabis, il a tout de suite, de manière un peu pavlovienne, réagi avec ses réflexes prohibitionnistes. Et en même temps, il était contraint de prendre acte de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, donc de l'arrêt Canavap, du 19 novembre 2020. Et il l'a fait, le moins qu'on puisse dire, d'une manière très contrastée, puisque d'un côté, en sortant d'ailleurs donc un projet d'arrêté dont on a eu connaissance début juillet 2021, il a autorisé les extraits de chanvre et il a interdit la commercialisation et l'usage des fleurs et des feuilles brutes de CBD. Bon, donc quand on a vu arriver ça, on avait le pressentiment, parce que j'avais eu l'occasion de discuter avec l'ami Deka et un conseiller du Premier ministre, on voyait bien à leur gêne que ils allaient sortir un arrêté qui allait nous contrarier. On s'est mobilisé quand le projet d'arrêté a été publié, il a été communiqué à la Commission européenne, on a écrit à la Commission européenne, on a fait valoir une position, et là, tout de suite, donc, avec l'excellente et remarquable équipe juridique Xavier Pizarro et Yann Bizou ici présents, et on a essayé de convaincre auprès des responsables, politiques, hein, les députés, notamment évidemment ceux qui avaient travaillé dans la mission parlementaire transpartisane ou non partisane, enfin, qui réunissait en tout cas l'ensemble des composantes du Parlement, hors Rassemblement national qui n'était pas présent à ce moment-là, et qui avait donc sorti trois rapports sur le cannabis récréatif, sur le cannabis médical et sur le cannabis bien-être, le CBD, invitant l'État à renoncer à sa posture, on va dire, moraliste et craintive, et au contraire à développer ces cannabis bien-être, à le libéraliser. Ce n'était pas l'option qui a été retenue par le gouvernement, et nous sommes allés, y compris sur les routes, hein, dans les villes, présenter, expliquer, parce qu'on voyait qu'il y avait un grand besoin de pédagogie sur le CBD. On l'a vu au moment de l'élection présidentielle, hein, peut-être de la vidéo brute où on voit tous les candidats qui en parlent de manière totalement confuse et pour certains grotesque. Et on a aussi, à ce moment-là, notamment à Strasbourg, on était suivi par envoyé spécial, fait la démonstration de ces tests réactifs qui, en 30 secondes, permettaient de distinguer les, le cannabis récréatif, du CBD, couleur bleue, couleur rose, très facilement en introduisant une fleur, enfin un petit bout de fleur dans ces réactifs. On s'est aussi répandu auprès des médias pour faire ce travail de pédagogie. Et si ça a apporté auprès de l'opinion publique et des journalistes, j'ai pu constater d'ailleurs un effet générationnel, les jeunes journalistes m'expliquant que quand ils allaient, à leur rédacteur en chef, qu'ils allaient interviewer le président du PCBD sur le CBD, ils disaient « Ah oui, tu vas voir les fumeurs de joint ». Donc on voit qu'il n'y a pas que les politiques, il y avait aussi un effet générationnel, alors même que paradoxalement, le CBD est consommé par toutes les générations. Sauf les mineurs, puisque nous avons cette autodiscipline de ne pas commercialiser auprès des mineurs.
Et sur plusieurs formes, si je peux me permettre de dire. C'est-à-dire que oui, tu peux l'avoir sur la forme d'huile, sur plusieurs formes, tout à fait.
Bien sûr. Oui, absolument. C'est, on a aussi expliqué tout ça, les cosmétiques, alimentaires, et les fleurs Eiffel, qui, malgré tout, en France, et c'est peut-être une singularité du marché, qui tient aussi au fait que nous avons le record de fumeurs de cannabis récréatif, que comme il y a un passage, une transition, soit totale, c'est-à-dire avec un arrêt de la consommation de cannabis récréatif, soit partielle avec un ralentissement, une réduction, ça peut expliquer en partie le succès du CBD en France. Et donc, ça allait évidemment dans le sens d'une politique de réduction des risques, c'est aussi ce qu'on a expliqué. Alors qu'on avait en face au soutien de l'arrêté et de cette interdiction qui était prévue de la fleur et des feuilles, des motifs qui se sont inversés d'ailleurs entre le projet et l'arrêté. Des motifs sanitaires et des motifs de sécurité publique, dont on a vu le peu de pertinence dont ils étaient frappés. On arrive, donc, on finit presque par espérer le gouvernement prenant son temps, qu'il nous a entendus, qu'il a entendu la voix de la raison, qu'il a regardé la réalité des faits, qu'il s'est dit on va faire une politique en faveur de la population, on a un secteur qui a l'air d'être florissant, on va regarder ça de près, et puis finalement, en regardant ça de près, on renonce à cet arrêté scélérat. Et au lieu de ça, le 30 décembre 2021, on a donc cet arrêté qui sort, qui prévoit donc, entre autres, l'interdiction des fleurs et des feuilles. Et donc, nous avons réagi, parce que nous étions déjà un petit peu préparés, mais ça n'a pas empêché le sacrifice du réveillon pour notre équipe. Nous avons déposé dès le 1er janvier, c'est-à-dire moins de 48 heures après la publication de l'arrêté, un référé liberté. Référé liberté dont on nous disait d'ailleurs qu'il était dangereux, périlleux, parce que vous avez deux types de référés devant le Conseil d'État. Vous avez le référé liberté, vous avez le référé suspension. Et le référé liberté, c'est vraiment un référé d'extrême urgence. C'est le cas le plus typique, c'est l'étranger qui est en voie d'expulsion sur le tarmac et on saisit le Conseil d'État pour éviter qu'il soit expulsé. Et donc, il y a une appréciation par le Conseil d'État qui est extrêmement exigeante pour caractériser cette extrême urgence. Et c'est là que, outre la compétence et la mobilisation totale de notre équipe juridique, on a eu aussi une formidable mobilisation des adhérents, puisqu'on s'est réunis, on a fait une visioconférence, très nombreux, et je leur ai demandé de communiquer en toute urgence des bilans comptables, des attestations comptables démontrant l'importance de la fleur et des feuilles dans leur chiffre d'affaires. Et on voyait qu'en recevant au fur et à mesure ce flot d'attestations comptables, on était sur à peu près trois quarts du chiffre d'affaires, ce qui signifiait donc que l'intention du gouvernement était de liquider clairement la filière CBD, en tout cas pour sa partie commerciale et même sa partie agricole, parce qu'il y avait des dispositions aussi contestées qui elles aussi ont été mises, notamment sur le contrat écrit entre un producteur, l'obligation d'un contrat écrit entre producteur et acheteur, avant la campagne de production, c'était donc prononcer l'arrêt de mort de la filière avec donc tout d'un coup des marchandises qui devenaient des stupéfiants et des commerçants qui devenaient des trafiquants. Sans délai, sans indemnisation. Donc on voit la filière CBD était conçue de manière totalement incompréhensible comme vraiment des ennemis à l'égal des trafiquants qu'il fallait tout simplement supprimer sans considération pour toutes ces entreprises, pour ces emplois. C'est la raison pour laquelle
Et en plus, Charles, je te coupe une petite seconde, mais en plus, Charles, ça crée aussi une concurrence un peu déloyale vis-à-vis des autres pays, puisqu'en fait, c'est que la France a été pénalisée, mais les autres pays, eux, n'avaient pas ces restrictions-là.
On y reviendra peut-être, mais c'est effectivement de ce point de vue-là, depuis le début, hein, l'État français a joué contre ses acteurs économiques et contre ses citoyens, saisi dans leur qualité de consommateur. Il a joué au moment de. En autorisant le CBD synthétique qui était produit par les Chinois et les Américains, et puis ensuite avec l'arrêt Canavap, l'interdiction pesant toujours en France, la commercialisation des fleurs, et bien du coup on avait 98% de fleurs d'origine européenne, avec tous les inconvénients qui peuvent y être associés, et en tout cas clairement une situation d'empêchement discriminatoire vis-à-vis des cannabiculteurs français. Donc, référé liberté en toute urgence. Donc, on nous disait, certains nous disaient, attention, mais pourquoi il fallait faire le référé suspension, on va se planter, ça va compromettre, tout ça. Ben, nous, on n'avait pas le choix, en fait. On n'avait pas le choix parce que si on faisait un référé suspension, c'était jugé en mars, avril, etc. Enfin, en tout cas, beaucoup plus tard. Or, on avait des gens qui étaient là avec femmes, enfants, etc., dont l'activité... dans leur commerce de CBD, permettait de vivre, hein, tout simplement. Et puis, au-delà de ça, on considérait ça comme parfaitement scélérable, incompréhensible, pour les raisons que j'ai commencé à développer tout à l'heure. Et donc, nous nous sommes mobilisés aussi. L'UPCBD a diffusé des documents qui s'appelaient « Pourquoi je continue à commercialiser, à vendre des fleurs ?» Voilà, on a fait une campagne très... très, très active, très, très convaincue. Et puis, on a mobilisé, on a écrit aux maires, aux députés, qui ont d'ailleurs apporté leur soutien et qui sont venus dans les boutiques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu, en fait, au cours de ces 3-4 ans, ou 2 ans, ou même un an, quand ils ont vu toutes ces boutiques, ben, ils ont vu que ça redynamisait le centre-ville, qu'il n'y avait pas des drogués autour du magasin qui faisaient du grabuge et tout. Pas du tout. Voilà, on a vu que c'était une clientèle de personnes âgées, de sportifs, de propriétaires d'animaux, etc. Enfin bon, une tête très tranquille qui n'avait strictement rien à voir avec la typologie des consommateurs de cannabis récréatif qui sont mis en direct par la politique de prohibition en lien avec les réseaux criminels. Parce que c'est en ça que consiste, ce sont les conséquences, les effets connus de la prohibition. Donc, mobilisation totale, soutien très important. Le sujet monte dans la campagne présidentielle. Des questions sont posées à l'Assemblée nationale, au Sénat. Une très grande couverture médiatique. On a été notamment soutenu par Julien Bayou et le candidat des Verts, par le Parti socialiste, mais pas aussi par des élus LR. Ou de la majorité présidentielle de En Marche. Donc, on a en tout cas essayé de fédérer un maximum. On a aussi inondé, il faut bien dire, l'Élysée d'un courrier. On avait fait un courrier type qui a été adressé. Et puis donc, ce référé liberté, grâce aux preuves que nous avons apportées, et donc c'est l'attestation comptable, grâce aussi à un adhérent qui est venu à l'audience au Conseil d'État, et qui venait de faire l'objet d'une procédure s'appuyant sur l'arrêté, parce qu'on devait aussi démontrer, au fond, il y avait avant une interdiction implicite. Hein, sous le régime de l'arrêté du 22 août 90, on était dans un régime d'interdiction, alors, qui avait été contredit par l'arrêt Canavap, mais on était. Et là, on était passé dans une situation d'interdiction explicite, et il nous fallait aussi démontrer qu'on avait une situation juridique qui avait changé. Le fait qu'une procédure pénale soit engagée sur ce nouveau texte était un élément, et on a donc j'ai pu montrer au moment où nous étions Xavier Pizarro et moi-même en train de siéger pour plaider, j'ai pu montrer cet adhérent et la situation dans laquelle il était. Les services de police lui ont indiqué que sa situation était suspendue à la décision que prendrait le Conseil d'État. Audience, l'affaire est audiencée le 14 janvier. Une audience qui va durer 3 heures, à laquelle nous ont rejoint entre-temps un certain nombre d'entreprises, le SPC, l'AFPC aussi, qui avait engagé une procédure contre le précédent arrêté. Et on se retrouve face aux représentants de l'État, l'AMIDECA, le ministère de la Santé, qui, il faut bien dire, ont passé un très mauvais moment à justifier l'injustifiable, à essayer de mettre de la cohérence, on ne pouvait pas en avoir, à s'appuyer sur ce qui était supposé être un véritable torchon. Ça relevait, il faut le dire, quasiment de la désinformation. Voilà. Et donc, c'est à dire que l'audience a été, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, Xavier nous le dira, mais a été un grand moment. Et en tout cas, moi, comme président de l'Union des professionnels du CPT et comme avocat, là, on voit vraiment, avec une présidente qui a été aussi remarquable, qui connaissait parfaitement son métier, qui avait lu tous les recours, on a vraiment une justice. On se plaint beaucoup de la justice et de la misère, de l'état misérable dans lequel elle est mise ou laissée. Le Conseil d'État, si la justice se vivait comme elle se vit au Conseil d'État, alors on peut critiquer le privilège de juridiction de l'administration qui n'existe pas dans tous les pays, mais on a eu une justice, et en l'occurrence dans une procédure d'urgence, absolument remarquable. Et donc le moment très fort que nous avons vécu cette audience, évidemment il aurait eu moins de sens si la décision nous avait été contraire, mais dès le 24 janvier, le Conseil d'État a donc suspendu l'interdiction en attente de la décision au fond. Et puis ensuite, eh bien, nous avions saisi aussi avec un recours au fond. Tout ça, d'autres acteurs sont venus et nous avons eu donc cette décision avant-hier qui vient confirmer au fond ce que nous disions déjà. Ce qui est intéressant, alors peut-être que je vais laisser la parole à Xavier aussi sur le contenu de la décision. Avec maintenant une décision donc définitive qui, je l'espère, sécurise durablement la filière, la condition étant, la double condition, je dirais, en tout cas la première étant que le gouvernement prenne bien toute la mesure de cet arrêt et qu'il ne cherche pas à le contourner ou l'affaiblir par des dispositifs d'arrière-garde.
Super, merci. Merci beaucoup, Charles. C'était vraiment détaillé. On va évidemment passer la parole maintenant à Xavier. Xavier, si tu peux rentrer un petit peu dans les détails du combat qu'il y a eu, bien sûr avec Yann aussi qui va parler avec toi. Très bien. Alors vas-y, Xavier, je t'en prie, à toi la parole.
Bon, ben je constate déjà que c'est la Saint-Xavier avec un petit peu d'avance. Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça?
Donc, moi, j'aimerais bien que tu parles de la partie technique du recours, voilà, toute cette partie-là. Je pense que c'est intéressant de communiquer comment vous avez monté la chose.
Comment est-ce qu'on a... C'est difficile d'arriver à séparer la partie technique de l'aventure humaine que ça a constitué. Voilà. Et Charles le disait très bien, c'est un moment fort, entre guillemets, à la fois comme professionnel et comme individu. On s'est retrouvé un petit peu comme ça... dans un moment où on s'y attendait absolument pas, où on était tous en train de préparer la soirée cotillon et éventuellement de définir si on allait se déguiser en Peter Pan ou en Capitaine Haddock, on s'est retrouvé un petit peu comme ça avec une bombe, le téléphone qui commence à sonner à droite, à gauche, etc., etc. Et c'est vrai que c'était assez fou parce que moi, ça me renvoie à des souvenirs que j'ai, d'échanges interminables entre 23h30 et 4h du matin avec Yann. Avec Charles, et comment on va faire? Il faut qu'on pende un truc sous 48 heures, mais est-ce qu'on a raison de le faire? Est-ce qu'on sera suivi? Est-ce que les adhérents seront là, se mobiliseront pour nous apporter des pièces? Voilà. Donc, il faut imaginer un petit peu le grand moment de panique et de pagaille, hein, surtout auquel on a fait face. Et c'était éminemment compliqué parce que ce qui se passait là, c'est que d'un point de vue technique, et c'est ça qui nous choquait en tout cas, c'est que du jour au lendemain, en quelques heures, sans dispositif transitoire, sans annonce faite en ce sens hein, qui aurait permis éventuellement aux acteurs de se préparer, de se dire très bien, on a fait ça pendant 6 mois, maintenant on peut plus, on nous le dit très clairement, on va contester sur le fond, mais pendant qu'on conteste, on a eu 6 mois peut-être éventuellement pour changer nos fusils d'épaule. Là, tout le monde se retrouvait dans l'illégalité la plus concrète et la plus flagrante. À la fois les vendeurs, c'est du fait du stock qu'ils avaient, hein, ben, un jour après, ils étaient détenteurs de stupéfiants. Les consommateurs, les clients, ben, ils devenaient usagers, ce qui était complètement fou, parce que ce qui créait cette situation, en plus de l'impréparation et de la soudaineté dans laquelle c'est arrivé, c'est la norme qui édicte ça. C'est-à-dire, dans l'inconscient collectif et dans l'état de droit dans lequel nous vivons, ce qui peut permettre d'interdire un comportement et de le sanctionner si la règle est violée, c'est la loi. La loi, arrêtée à la fin d'un processus qui est garant de la démocratie, ça veut dire qu'il y a un débat qui se tient chez des personnes que l'on a élues et qui décide à la fin, en faisant l'analyse de tout ça, de dire « ça, c'est interdit, mais il y a une raison pour laquelle c'est interdit. Voilà. » bon. Et là, c'était l'administration, de manière brutale, et surtout, effectivement, sans qu'il y ait ce qu'on appelle de rational à tout ça. Ça veut dire de raison objective à ça, de justification.
Je te coupe un peu, Xavier, mais on va pas débattre très longtemps sur ça, mais pourquoi ? À ton avis, pourquoi ? C'est ça la grande question.
Alors, moi, je n'en sais absolument rien. Je suis pas fonctionnaire d'une administration. Je suis pas élu. Je suis un modeste avocat de province, même s'il fait bon être avocat à Marseille. Mais j'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que, et je m'attache là-dessus parce que c'est vraiment ce qui pose un vrai problème d'un point de vue symbolique, c'est qu'on puisse ériger des comportements en délit, d'accord, par voie de conséquence, avec un texte réglementaire, avec un arrêté, une décision que prend un fonctionnaire en fin de compte. Et ça, c'est une grave violation des principes qui régissent notre état de droit et la manière dont le droit pénal est pensé. Il n'y a pas d'infraction et il n'y a pas de sanction sans un comportement qui soit déterminé et déterminable à l'avance comme étant constitutif d'une infraction. Et là, c'était tout l'inverse.
D'accord. Merci Xavier sur ça. Yann, est-ce que tu vas aborder justement sur cette partie-là ?
On est content d'avoir un réveillon qui sera on va rattraper demain le réveillon qu'on n'a pas fait l'année dernière. En même temps, rétrospectivement, oui, ce qu'on se dit, c'est qu'on a bien fait de se bouger, quoi, et ça fait plaisir. On va pas se cacher. C'est plein de gens qui se sont mobilisés, c'est beaucoup d'actions, beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Et ce que disait Charles, c'est-à-dire qu'au final, quand même, une analyse, alors même si on aura encore des critiques à adresser au Conseil d'État, et j'en ai de nombreuses, une analyse quand même assez fine du juge et des magistrats qui ont pris le temps de travailler à fond la question. Et c'était vrai au moment du référé, et là, de nouveau, sur l'affaire au fond, enfin, les conclusions de la rapporteure générale, Sirinelli, sont remarquables. Donc, on a eu des gens à l'écoute, des magistrats à l'écoute, et peut-être plus à l'écoute que les politiques. Voilà.
Très bien, c'est bien de le signaler sur cette partie-là. Et puis, Charles l'a dit, il y a aussi toute une communauté qui a suivi ce combat via les différentes associations. Moi, je l'ai vu sur la partie aussi sur les réseaux sociaux. Tout le monde a communiqué, vraiment était derrière ce combat. Ça, c'était intéressant. Charles, est-ce que toi, tu veux revenir un petit peu sur des questions qui subsistent ou qui restent à voir, puisque là, on est en train de fêter une victoire juste avant le jour de l'an, mais il y a encore pas mal de choses qui restent sur la table. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui reste sur la table et quels sont les enjeux ?
Alors, d'abord, avant de dire ce qui reste sur la table, peut-être ce que j'espère des effets de cette décision, du fait que donc consacre la légalité de la commission de la fleur. J'espère qu'elle va ouvrir les yeux du gouvernement. J'espère que le ministre de l'Intérieur va sortir du jeu, parce que malheureusement, son approche qui est idéologique et moraliste est totalement inefficace et complètement contraire aux intérêts de la France, de la filière, des agriculteurs. J'insiste, je le redis, le chanvre, c'est la plante d'avenir. Elle présente toutes les qualités écologiques, agronomiques, qui répondent aux enjeux et à l'urgence de la crise climatique qui on sait à quel point elle est lourde et qu'il est urgent d'apporter des solutions. On a une solution sous les yeux, une plante qui, par ses usages industriels, usages alimentaires, médicaux, bien-être, est absolument... je trouve miraculeuse, facile à faire pousser avec des vertus qui permettent, quand je dis des vertus écologiques, c'est notamment l'absorption de CO2, la dépollution des sols, la restructuration, etc. Voilà, c'est une plante. Il y a 20 000 hectares en France. On devrait être multiplié par 4, 5, 10. Voilà. Et le CBD, c'est une des opportunités de le faire avec tous ces usages. Ce qui est intéressant, la décision du Conseil d'État, il y a des choses intéressantes, mais non seulement elle rappelle que le CBD n'est pas psychotrope, mais elle considère, au regard des études scientifiques, parce que nous sommes appuyés sur le droit et sur la science, que le CBD comporte des propriétés relaxantes et apaisantes. Donc, elle ne le met pas dans la bouche des parties, elle le reprend à son compte. Bon. Donc, par rapport au risque qui était invoqué par le gouvernement. Donc, changement d'attitude, de paradigme du gouvernement. Évidemment, qui nous inclut, nous, syndicats représentatifs, UPCPD, AFPC, SPC, pour discuter de la réglementation. Et il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sujets. Et on porte déjà 12 mesures, on en a plus, hein, mais qu'on met en avant, de l'intersyndicale, une libération des acteurs. Il y a une problématique sur le taux de THC, il y a sur le bouturage, sur la liberté variétale, les semences, etc. Il y a un vrai sujet si on veut avoir des variétés, des modes de culture qui sont adaptés au CBD. Il y a la consolidation de la filière agricole qui, pour l'instant, est exposée. Alors, on parlait des interdictions des obstacles, mais il y a aussi des subventions aux pays, aux agriculteurs d'autres pays, des latitudes, etc. On veut, nous, et on a pris des engagements aussi de la filière, qui est des produits sourcés français. Ça a un intérêt en termes de qualité, de traçabilité, de circuit court, du caractère naturel de la plante. Et le troisième, c'est la sécurité des consommateurs. Je parlais de la traçabilité, l'information, une information transparente, complète, etc. Voilà, donc on a ça à apporter. Et on voudrait que le paysage mental change non seulement au gouvernement, mais aussi chez les acteurs institutionnels, les banques, les assurances, parce que aujourd'hui, c'est encore une galère. Alors, on a, grâce à des banques un peu plus audacieuses, comme Fiducial, avec lequel on a fait un partenariat, mais les banques restent encore très timorées, parce que je pense qu'elles étaient en attente, et je pense qu'on va discuter dans les services compétents des grandes banques, j'espère, et en tout cas, on va leur écrire, aussi bien d'ailleurs à la Banque de France que différentes banques, pour leur dire de sortir le CBD de la liste noire et pouvoir enfin avoir accès facilement, quand on est un commerçant CBD ou un acteur de la filière CBD, à un compte bancaire, des financements, parce qu'il y a notamment des équipements, je pense aux agriculteurs, et pas que les subventions. D'ailleurs, ils ne demandent pas particulièrement des subventions, ils demandent de pouvoir travailler déjà tranquillement, ce qui est beaucoup demandé manifestement dans la situation actuelle. Voilà, je dirais les trois changements, et après, c'est le chantier, si vous voulez, on peut revenir un petit peu en détail, mais il y en a.
Oui, c'est très bien, Charles. Je te rebondis un petit peu, parce que moi, j'ai eu un rendez-vous avec une grosse banque, une banque d'entreprise, il n'y a pas si longtemps, et effectivement, tu as raison, c'est en train de changer. Je pense que toutes les démarches que vous avez mises en place sont en train de bouger. Ils ont eu une descente du siège qui leur a dit « Allez, go sur le CBD ». Et donc, on a eu green light sur pas mal de choses. Donc, tout ce combat, tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce qui a été fait, ça commence à porter ses fruits et on commence à considérer petit à petit cette filière comme une filière entre guillemets normale de business. Et pour tout le monde, hein, c'est intéressant. J'ai vu que tu bouillonnais, Xavier. Je te laisse la parole. Tu veux rajouter quelque chose? Je te vois vibrer.
Non. Je bouillonnais pas. Tout simplement, c'est que. J'ai dit quelques mots, mais c'est vrai que j'ai pas véritablement parlé, comme tu nous l'avais demandé à Yann et à moi-même, peut-être, du débat technique qu'il y avait effectivement. Je me suis contenté de rappeler quelques souvenirs très agréables, humains, dans un dossier un peu extraordinaire, avec des moments d'audience qui étaient complètement fous. Je nous revois d'ailleurs avec Charles nous regarder comme ça à l'RBA. Est-ce qu'on est vraiment en train de vivre ce qu'on est en train de vivre? Voilà. Avec des sourires en coin et en regardant les confrères qui pensaient la même chose. Mais juste sur la technique, et peut-être que Yann me complétera, il y a plusieurs niveaux en fait de lecture. Il y a un premier niveau de cette décision, c'est à quoi elle va servir dans les instances en cours. Et pour moi, ce qui m'intéresse en tant que cloueur de cercueil dans tous les dossiers qui partent en vrille un petit peu partout, c'est que on se retrouve cette fois-ci avec une décision définitive de la plus haute instance administrative et dont le contenu est un contenu tout à fait exploitable. Ça veut dire que là, il n'y a plus une instance pénale en cours, et il y en a encore quelques-unes, malheureusement, dans lesquelles on va pouvoir dire, mais regardez ce que dit le Conseil d'État au sujet du CBD. Regardez ce qu'a fait le Conseil d'État de l'interdiction de la peur. Et ça, dans l'esprit d'un magistrat, hein, ben, ça vaut de l'or, tout simplement. C'est un argument d'autorité massue. Donc, le poids symbolique de tout ça dans les mécanismes de décision judiciaire, c'est une première chose. Le deuxième...
Donc, on peut un peu examiner, ça veut dire que toutes les personnes qui sont en ce moment en problématique vis-à-vis de ça, eh ben là, ils ont une carte à jouer très puissante pour pouvoir sortir de cette problématique.
Exactement. On était à la quinte à la river, on vient d'avoir un as, là. Hein. Donc, c'est merveilleux, dans les dossiers déjà en cours.
Okay.
Deuxième point fort, c'est qu'il y avait un certain nombre de débats juridiques de fond au long cours. Ça veut dire que c'est des débats que Charles, au travers de l'UPCBD, nous a mandaté pour travailler dessus avec Yann, donc des débats au long cours qui concernent toute la filière et sur plusieurs affaires, et qui petit à petit sont en train d'écrire une histoire commune. Il y a le premier débat, c'est celui du « c'est quoi un stupéfiant ?». Vous vous souvenez tous de cette audience qu'on avait eue au Conseil constitutionnel, et ce qui est très très intéressant, c'est que dans cette audience-là, le Conseil d'État, il fait référence à la définition du Conseil constitutionnel de la notion de stupéfiant, et il se l'approprie, il la fait sienne. Il dit « on ne peut pas dire que le CBD, la fleur de CBD, c'est un stupéfiant, parce que le Conseil constitutionnel a dit ça ». Et ça, ça a été rendu possible parce que on est allé devant le Conseil constitutionnel, pareil, hein, pour le compte de l'UPCBD, avec Yann, sous l'impulsion et avec le concours de Charles. Et donc, voilà, c'est des petites briques qui commencent à s'emboîter et qui finissent par donner un cadre, qui finissent par donner un statut. Et ça, c'est très, très intéressant à double titre. Et là, je suis peut-être un peu plus technique, mais je ne veux pas perdre le profane. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Conseil d'État, au lieu d'aller chercher des arguments pour dire oui dans le droit européen, pour une fois, il va du côté du droit interne. Il regarde du côté de la Constitution telle qu'interprétée par l'organe constitutionnel suprême, qui est le Conseil constitutionnel. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que avant notre source argumentative, c'était l'Europe, et maintenant, c'est l'Europe plus le droit constitutionnel interne. Ça, c'est super. Voilà. Donc, là, c'est cette chose-là qui s'est techniquement, il y a un point. Il y a un deuxième point qui est toujours un débat, hein, qui est si on retient cette définition par rapport à laquelle on raisonne, hein, de qu'est-ce qui est un stupéfiant, ben ça ouvre sur la question du taux. C'est est-ce qu'il y a une vraie différence entre un produit que le Conseil d'État vient de nous dire qui n'était pas un stupéfiant quand il est en dessous de 0,3? S'il est, par exemple, demain à 0,6. Et si il est à 0,6, et il vient en Italie. C'est-à-dire, où s'arrête effectivement le marqueur? Si on dit, on raisonne par rapport à une définition matérielle de ce qui est un stupéfiant, voilà, ça va jusqu'où?
Il y a un 3... On peut parler de la Suisse qui a 1% aussi.
Exactement. Et d'autant plus que si c'est une définition constitutionnelle, ça veut dire que, par exemple, le droit européen qui n'est pas applicable en Suisse, on doit pouvoir appliquer une notion, entre guillemets, matérielle constitutionnelle à un produit suisse. Et ça, c'est aussi c'est intéressant. C'est une nouvelle porte. Il y a un troisième débat, entre guillemets, il y a deux autres débats très, très techniques là, qui étaient en cours et dont on vient d'avoir des résultats encourageants. C'est aussi la question de la justification de l'interdiction par une raison de sécurité publique. Souvenez-vous, hein, sous Canavap, on avait ce qui était en balance, c'était la Cour de justice de l'Union européenne dit « vous ne pouvez pas interdire ça ». Parce que la raison de santé publique que vous invoquez, elle n'est pas valable. Et il y avait une interrogation sur ce débat, c'est « ok, ça c'est acté, mais quid, qu'est-ce qui se passerait si on invoquait une raison impérieuse de sécurité publique ?» Et là, c'était le cas dans cette instance-là. Le gouvernement disait dans un mémoire « ouh là là, mais si on n'interdit pas la fleur de CBD, ça va foutre en l'air l'intégralité de notre politique pénale » de lutte contre les stupéfiants, parce que les policiers dans la rue vont être absolument incapables de distinguer un consommateur de CBD d'un consommateur de stupéfiants. Et là, on avait eu quelques passages de bravoure sous la plume de Yann Bizou, qui, à la fois dans les commentaires qu'il faisait d'Alloz, mais aussi dans ses mémoires-là, à développer une argumentation enfin assez pertinente et punchy sur le fait de dire bon, tout ceci c'est n'importe quoi. Et là, le Conseil d'État le dit, il écarte la raison de sécurité publique qui aurait pu justifier l'interdiction. Donc là aussi, on a avancé. Et il y a un autre débat, mais alors là, Yann, moi je suis vraiment un profane par rapport à Yann, mais qui a un débat de droit international, c'est que dans les mémoires du gouvernement, on a cessé de marteler, en tout cas nos contradicteurs ont cessé de dire que les conventions internationales ne faisaient pas cas, ne distinguaient pas selon les types de cannabis, et que le cannabis en lui-même était classé comme un stupéfiant. Et là, sauf erreur de ma part, Yann, le Conseil d'État nous dit non, non. Voilà. Ou a l'air de dire non, non, ou laisse une porte ouverte éventuellement à dire non, non. Voilà. Si c'est peut-être plus exact, c'est peut-être plus conforme. Mais voilà, ça veut dire que sur ces quatre points-là, hein, qui conditionnent le statut futur de ces produits et les instances qui sont en cours, et moi, c'est ce qui m'intéresse, quoi. Hein, c'est comment on sort les gens dans la merde quand ils ont une difficulté. Et tout ça, c'est encore une fois des munitions. Dernier point peut-être sur la technique, et c'est la seule déception que j'ai dans cet arrêt, même si, comme le soulignait Charles, ben, j'aimerais bien que la justice du quotidien à laquelle je suis confronté soit rendue avec le même degré d'exigence que la justice du Conseil d'État. Hein. Là, sincèrement, c'est des magistrats qui ont bossé, qui sont intéressés au sujet. Voilà, ça redonne foi dans la pratique quotidienne de l'exercice. Mais il y a peut-être un petit bémol, c'est que avec Charles et Yann, on s'était aperçu au dernier moment, je crois que c'était la veille ou l'avant-veille de l'audience de référé, alors qu'on était en train de préparer nos interventions, on s'était fait communiquer en fait la proposition de l'agence de la NSM, hein, comme ça in extremis. Cette proposition, dans le système tel qu'il est, il est prévu par le Code de la Santé publique, c'est s'il y a une interdiction, et ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une raison à cette interdiction. C'est qu'à un moment donné, il y a, je sais pas, un expert en santé publique ou un expert médecin ou biologiste qui dit « ça, c'est mauvais, c'est pour ça qu'il faut l'interdire ». Et nous, on s'était fait communiquer cette proposition, donc qui déclenche la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'adopter cette interdiction. Et cette proposition, en fait, c'était une proposition purement formelle. Elle renvoyait à rien substantiellement. Elle renvoyait à rien matériellement. C'était comme si je propose qu'on interdise parce que je le propose, plutôt que interdisons parce que c'est dangereux, c'est mauvais, c'est pas vendable, c'est mauvais pour les. On peut pas effectivement savoir avec un test sommaire qu'est-ce que c'est. Et nous, on avait développé une argumentation dans ce qu'on appelle en droit la légalité externe, hein, c'est-à-dire le processus qui a conduit à l'élaboration d'une norme qui est irrégulière et ça vicie la norme, en fait. C'est ça. On avait dit, mais attendez, si les textes prévoient que pour adopter par la voie réglementaire une interdiction, il faut une proposition d'une autorité expertale, la NSM, et que la proposition, c'est juste « je propose », vous n'avez pas une vraie proposition. Parce que si on confie ce pouvoir de proposition à l'autorité expertale, c'est qu'à un moment donné, elle est garante de quelque chose. Si elle propose quelque chose, c'est que ça a un sens de le proposer. Et non pas parce que c'est la chambre d'enregistrement du gouvernement, parce que le gouvernement lui a demandé « proposez ça ». Elle a une volonté propre, elle a une autonomie de proposition, parce que justement, elle est experte. Et c'est pour ça qu'on lui confie ce pouvoir-là, parce qu'elle est experte. Et ça c'est quand même un sujet de déception, parce que ça veut dire que on est dans le Conseil d'État, indirectement, il valide une conception du système où l'autorité d'impulsion, hein, aujourd'hui pour le CBD, demain pour autre chose, ben quelque part, elle n'est qu'une chambre d'enregistrement du politique ou de la volonté, entre guillemets, politique, et pas une vraie autorité qui est censée, effectivement, faire, voilà, si c'est une autorité experte, ben, une analyse un petit peu scientifique ou systémique de la situation. Et ça reste un problème parce que tout ça, on va continuer à le retrouver dans d'autres contentieux d'avenir, notamment le contentieux routier, le CBD, hein, où là, pareil, hein, l'autorité experte n'a pas fait son boulot, et donc à la fin, on a des tests qui fonctionnent n'importe comment. Voilà. Et donc ça, c'est peut-être un petit sujet de déception. Voilà. Mais en tout cas, je vois que, si vous voulez, on est dans une partie de chasse, et on vient de remplir nos gibecières de munitions et on est armé comme Rambo sous l'égide de l'UPCBD. Voilà, c'est comme ça que je vois ça.
Très bien, merci Xavier, merci beaucoup. J'aime bien les images que tu nous donnes dans la tête. Yann, si tu peux rebondir justement sur cette partie-là, il y a un point que Xavier a signalé sur la partie Europe où je pense que tu as peut-être plus d'expertise dedans. Et après, potentiellement nous dire sur cette partie, j'allais dire, c'est quoi les next steps ? Qu'est-ce qui nous attend par la suite ?
Ok. Alors, déjà, dans l'arrêt, il y a deux choses. Il y a deux choses importantes. Je vais commencer par le positif. Il y a la légalité de la commercialisation de la fleur. Il y a aussi, parce que ça, ce n'était pas dans le référé. Le Conseil d'État avait considéré que ce n'était pas nécessaire d'en discuter. Alors là, cette fois-ci, il en discute. C'est la deuxième partie du grand 2 de l'article 1. C'est le fait qu'il n'y a plus besoin maintenant de contrats préalables précisant le prix, etc., pour la production. C'est-à-dire qu'il y a un allègement du formalisme et un allègement qui est justifié par le Conseil d'État par le fait que, en fait, il n'y a pas de dangerosité sur le produit. C'est un produit comme les autres. Donc, ça veut dire que le gouvernement, quand il va réglementer, s'il réglemente, parce que ça, la possibilité lui est encore donnée de reprendre sa copie et de réécrire une réglementation, eh bien, à ce moment-là, il va devoir quand même le faire dans un cadre qui est très étroit, et il ne pourra pas avoir cette approche très idéologique qu'il a eue juste depuis 2015, hein, en fait. Si on part des origines de l'arrêt Canavap, c'est 2015. Ensuite, j'ai des déceptions moi aussi, mais bon, c'est normal, hein. Dans un arrêt, on n'a pas tout ce qu'on veut. Je partage la déception de Xavier sur la légalité externe. Je trouve que c'est vraiment, le Conseil d'État prend une décision qui, d'ailleurs, au-delà de la question du cannabis, pose la question du rôle des autorités expertales. Et ça, c'est un peu dommage, parce qu'en plus, c'est en décalage avec la jurisprudence qu'il avait habituellement et qu'il avait commencé à construire sur le sujet. Moi, j'ai un autre sujet aussi sur lequel je suis assez frustré, c'est le 0,3% dans le produit fini. Parce que ce qu'on lui avait fait remarquer avec Xavier, c'est que le 0,3% dans le produit fini, moi je veux bien, c'est écrit comme ça, mais il n'y a aucune explication sur comment on vérifie ce 0,3% dans le produit fini. Et à la différence de ce qui se passe pour le cannabis thérapeutique. Pour le cannabis thérapeutique, le gouvernement a pris soin d'expliquer comment on calculait les taux de CBD, les taux de THC dans le cannabis thérapeutique. Il nous a dit, voilà, il y a des normes, il y a des machins, il y a des référentiels, et puis, s'il n'y en a pas, eh bien, c'est l'industriel qui choisit un référentiel pertinent. Bon, comme ça, la filière est sécurisée. Là, rien. On nous dit 0,3% dans le produit fini, d'accord, mais comment on le calcule, selon quelle méthode? Et voir le Conseil d'État dire, non, ça suffit d'avoir écrit ça. Moi, je trouvais que là, ils avaient été un petit peu légers, mais bon, on va passer.
Si je peux remonter, Yann, sur cette partie-là aussi, l'autre difficulté, c'est qu'on parle d'une plante. Donc, c'est effectivement assez difficile aussi de maîtriser un taux aussi bas potentiellement de CBD. Je parle de la fleur, pas de produits transformés, évidemment. Et sur cette partie-là, on est obligé de rajouter potentiellement, on appelle un washing, donc de retirer une partie donc du THC qu'il y a dans la plante et qui enlèverait aussi une partie du CBD, une partie aussi des terpènes, etc. Donc on commence à avoir quelque chose d'artificiel, j'allais dire, sur une plante qui à la base doit être naturelle. Donc ce 0,3, effectivement, il pose beaucoup de débats, beaucoup de questions, alors que Xavier l'a dit, on est au-dessus en Italie, on est à 1% notamment en Suisse, et puis sur cette partie-là, voilà, il y a eu ça, de 0 à 1%, j'allais dire.
1% en Suisse, 1%, 1% en Pologne maintenant, de mémoire en République tchèque aussi, donc oui. Maintenant, attention, ne confondons pas, il y a deux choses. Il y a la question du seuil, 0,3%. Mmh. Et là, par contre, comme le dit Xavier, la décision du Conseil d'État, elle nous donne des billes. Hein. On va pouvoir discuter de ces 0,3%. Et puis, il y a une autre question qui est beaucoup plus technique, mais que vont se poser les industriels du secteur, c'est comment ils vérifient que leur produit, il correspond à la norme. Et donc là, c'est pour les produits dérivés, c'est pas pour la fleur, hein, mais vous sortez une huile, l'huile, elle doit être à 0,3%. comment je calcule mon 0,3%, selon quelle méthode, chromatographie, test, je sais pas quoi, enfin, on peut, et chromatographie en phase gazeuse, pas en phase gazeuse, machin, enfin, donc on a plusieurs méthodes possibles. Or là, le gouvernement ne nous explique pas laquelle il faut choisir. Et il ne fait pas non plus confiance aux industriels, comme dans le secteur du cannabis thérapeutique, pour choisir la méthode la plus adaptée. Donc là, je trouve que c'est un peu dommage de la part du Conseil d'État. Mais tu vois, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Il y a la question du taux à 0,3, et puis il y a la question de comment je vérifie que j'ai bien respecté mon taux à 0,3. Voilà. Et là-dessus, le Conseil d'État nous dit « bon, ça suffit ». Là, je les ai trouvés, ils étaient peut-être un peu fatigués, l'arrêt était long. Bon, après juste quand même, je vais me permettre un sourire. Ça a coûté très cher quand même à tous les acteurs. Hein, ça a coûté du temps. Hein. Je rappelle, Canavap, la première démarche de Begri, c'est 2015, de déposer devant la NSM un dossier pour autoriser sa Canavap. Et donc, en 2015, on aurait pu régler ce problème. On est en 2022. Donc, ils ont déjà perdu tous beaucoup de temps, premièrement. Et puis, deuxièmement, ben, ça leur a coûté très cher. Donc là, il y a une condamnation pécuniaire pour l'État. Enfin, une indemnité, des dédommagements que devra payer l'État à chacun des acteurs. Donc, ça fait quand même 14 000 euros que... Alors, j'aimerais savoir si on va le prendre sur le budget du ministre de la Santé qui est déjà famélique ou sur le budget du ministre de l'Intérieur dont la responsabilité est largement mise en cause dans l'arrêt du Conseil d'État. Voilà.
Alors, attends, précise un petit peu ça, c'est-à-dire 14 000 euros, c'est-à-dire...
le gouvernement doit verser 1 000 euros à chacun des acteurs qui ont engagé la procédure et qui ont gagné. Donc, il y a 14 personnes, donc je viens de
dire que
ça fait 14 000 euros.
D'accord, mais est-ce que si tout le monde, si tous les magasins, si tout le monde se met, est-ce que ça ne peut pas être beaucoup plus que ça?
Ah oui, alors encore, mais là, c'est encore autre chose. C'est les procédures que certains envisagent pour obtenir la compensation ou l'indemnisation d'éventuelles pertes. Là, franchement, c'est à travailler, mais juridiquement, c'est pas facile. Hein. Mettre en cause la responsabilité financière de l'État, c'est un sacré travail. Hein.
Je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis.
Voilà.
Mais par contre, bon, c'est symbolique, hein, ces 14 000 euros, j'ai l'impression, parce que derrière, évidemment... Évidemment, l'année qui ont passé les professionnels a été plutôt difficile, la perte de confiance.
C'est insignifiant, oui.
Évidemment, et on l'a répété tout à l'heure, Charles l'a bien dit, on est à plus de 70% donc du marché qui était lié à la fleur. Ça a été même psychologiquement assez difficile. Charles, moi j'aimerais bien que tu nous parles des prochaines étapes, s'il te plaît. Qu'est-ce qui nous attend par la suite? Quels sont les prochains combats? Où va aller la filière? Donc là, d'après ce que je comprends, tous les trois, vous me dites, voilà, on est bien pour l'instant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un magasin de CBD, il n'y a plus de problème à réfléchir par rapport à ce qui va se passer potentiellement. Enfin, j'espère que tu vas me confirmer ça. Et après, qu'est-ce qui nous attend sur les prochains combats, Charles?
Alors, il n'y a plus de problème. Je vais aller un peu vite en besogne. Il y a la question de la réglementation Novel Food donc, tellement qui se pose. Il y a les consommateurs qui peuvent avoir leur permis retiré. Bon, il y a un certain nombre de... Et puis, il y a une série d'obstacles qui ne sont pas levés. Bon, la première chose, c'est qu'on a effectivement ben, cette épée de Damoclès maintenant qui était suspendue et qui disparaît. Donc, ça, c'est très bon. C'est voilà, un paysage qui change. J'espère qu'on est à un point de bascule. Simplement, il faut qu'on reste vigilant. On va dire que la phase de combat frontal est terminée, d'accord, sur la question de la légalité de la fleur. Ça, je pense, c'est derrière nous. Simplement, il faut qu'on reste vigilant par rapport à l'attitude de l'État. Soit il se met dans une disposition, il se met à l'écoute. Hein, et là, on est dans un dialogue régulier et on expose... les faits, notre vision des choses, les mesures que l'on propose, soit bah, il est dans un comportement dissocié où effectivement il nous invite à sa table, mais en même temps bah, il met en place des dispositions qui viennent restreindre la commercialité ou la profitabilité, parce qu'il y a aussi une question fiscale. Quel régime fiscal peut être appliqué? Donc ça, c'est il va falloir qu'on soit particulièrement vigilant. Sur cette question, s'inspirer peut-être justement du modèle suisse là-dessus. Donc, il va falloir qu'on ait une discussion sur la fiscalité. Et puis, tout ce que je viens, les mesures que je viens d'expliquer pour faire en sorte qu'on ait des produits naturels, le taux de 1% que j'évoquais, c'est parce que à 0,3, dans l'état actuel des variétés qui sont utilisables et des modes de culture autorisés, on a un souci là-dessus. On sait qu'il y a un rabaissement artificiel à ce taux dans pas mal de cas, même s'il y a des procédés qui sont plus ou moins vertueux. Donc, il faut qu'on se mette d'accord pour avoir des modes de production vertueux. Et donc, ça suppose qu'on aille un peu plus loin que le 0,3. Et voilà, toute une série de sujets sur lesquels on veut avancer. La certification d'une formation, ça, c'est France Compétences. Là aussi, parce qu'il s'agit d'avoir des vendeurs qui savent de quoi ils parlent, dans un cadre qui est aussi restreint, hein, pas d'allégation thérapeutique. Et en même temps, les gens qui viennent acheter ces produits, ils viennent chercher un soulagement, le stress, des problèmes de sommeil, d'angoisse, de douleur, etc. Voilà, on a beaucoup de chantiers. On se réunit d'ailleurs avec nos adhérents la semaine prochaine pour les évoquer. Et on va travailler tous azimuts à approfondir justement notre argumentation et d'exposer des motifs et différentes mesures qu'on propose.
Ok, excellent. Moi, ça fait un petit moment là qu'on discute sur ça. J'aimerais qu'on fasse une magnifique conclusion. Qui se sent prendre cette conclusion avec tant de verbes? Charles, est-ce que tu as envie de la faire? Yann, Xavier? Allez, je vais tirer au sort hein, si personne ne se lance. Hein.
Joyeuse année. Bonne année. Cette voilà. Fois-ci. Je pense qu'ils auront des motifs cette fois-ci. Parce que quand même, hein, l'arrêté est daté du 30 décembre, mais il est sorti au JO du 31 décembre. Et franchement, à 7h du matin, quand je l'avais vu, ça a été la douche froide. Hein. Donc là, voilà, on va fêter joyeusement 2023 en espérant en effet que 2023 soit plus constructif que 2022 au niveau des acteurs institutionnels. Comme le disait Charles, il y a beaucoup de sujets qui restent encore à clarifier. C'est une étape super importante, cette décision du Conseil d'État. Elle nous donne énormément d'arguments. Mais à un moment donné, il faudrait construire avec la filière plutôt que contre la filière. Et je crois que c'est ça l'enjeu, en fait.
Mmh, tu as raison, Yann, ça, c'est des bonnes paroles. Et je pense que de plus en plus, on est à l'écoute. Vous êtes à l'écoute. C'est important.
Il n'y a pas d'enjeu. Personne ne sortira vainqueur. Nous sommes tous vainqueurs. Et on va fêter, évidemment, cette victoire demain. Hein, voilà, je pense. Et puis, on se remet au travail. On y est déjà, mais... sur tous les chantiers. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est effectivement ce combat, il a eu aussi différentes vertus, mais une de ces vertus, ça a été de fédérer. Il y a une mobilisation absolument incroyable des adhérents, non seulement, je l'ai dit au moment de le référer, mais ensuite par la suite, il y a eu un effet unitaire, on s'est retrouvés sur nos valeurs, et donc il faut maintenant qu'on a gagné ce combat, qu'on reste avec ce même état d'esprit combatif, en responsabilité. Voilà, maintenant, on a défendu nos droits, il faut maintenant qu'on assume aussi nos responsabilités. Unitaire aussi avec les autres syndicats, parce qu'on marche vraiment main dans la main. Vous voyez, on a publié d'ailleurs un communiqué commun, hein, 2 heures après la décision. Voilà, il faut qu'on garde ça, et qu'on se mette maintenant, qu'on prenne un peu de hauteur aussi. Encore une fois, c'est vraiment, je pense, la plante de chambre qu'il faut qu'on défende, qui donc maintenant doit être exploité dans toutes ses parties. Et le CBD vient d'y entrer par la grande porte avec cet arrêt du Conseil d'État.
Excellent. Merci beaucoup, Charles. Ben, moi, je tenais à vous remercier tous les trois. Merci d'avoir été présents aujourd'hui. Merci d'avoir réagi si vite à mon invitation. Je pense que c'était très important de communiquer, de remettre du contexte et surtout avec vous, hein, qui était au cœur de ce combat, qui était en première ligne. Donc, vous êtes les éléments essentiels sur cet élément-là, même si Xavier a cité toutes les autres personnes qui étaient dedans. Voilà, je vous dis merci. Merci beaucoup au nom de tous les auditeurs, toutes les personnes qui vous écoutent. Sans vous, les choses seraient différentes. Ce que je retiens, c'est que la route est encore longue, mais qu'il y a encore de belles choses à faire. Il y a encore de beaux combats pour 2023. Donc, on va fêter ce nouvel an avec de bonnes vibes et on repart au travail sur 2023. Merci à tous les trois et je serai très honoré de vous avoir encore sur Parlons Cana très prochainement pour encore fêter d'aussi bonnes nouvelles. Merci beaucoup à tous.
Merci à toi.
Merci.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.